palla nella difesa del Milan. Prêté pour un rendu entre les Uruguayens et le Brésilien pour l'action qui est en train de naître.
L'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-match, votre rendez-vous tous les lundis de 17h à 18h. Pour faire bien sûr le tour des stades européens et pas que, africains également, avec les compétitions continentales. Et pour évoquer aussi cette magnifique compétition, la phase de groupe de la Ligue des Champions, qui débute ce mardi. Et avec elle, les émotions, tout ce que le football peut nous offrir. De toute façon, l'année dernière, on s'est tout simplement régalé avec cette compétition, comme on se régale chaque lundi, chaque vendredi, plus si affinité, avec Fred Hermel. Salut Fred.
J'aime bien le plus si affinité. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Ben oui, t'as raison, j'ai bien aimé. Oui, la Ligue des Champions de l'an dernier, c'était sympathique. Bon, les finales étaient d'une rare
médiocrité. Le Real ne l'a pas gagné, mais elle a été sympathique.
Oui, c'était sympathique. Les deux finales ont été assez mauvaises, mais ne vous inquiétez pas, les amis. Les clubs espagnols seront bien là cette saison pour agrémenter tout ça.
Les clubs espagnols seront là pour agrémenter tout ça. Est-ce que le club français y sera? Hervé Penaud, salut.
Bonjour à vous les amis. Mais pourquoi même me poser cette question? Alors qu'on sait très bien que le Paris Saint-Germain, c'est son année. Et évidemment, l'année où on l'attend pas, l'année où il y a eu un Neymar qui a failli partir, rester finalement. Et c'est là, vous allez voir débouler ce Paris Saint-Germain bien plus loin que les quarts de finale. Bonjour à tous.
Alors bien entendu, on se calme un petit peu. On parlera de la Ligue des Champions dans quelques instants. D'abord, un retour sur vos championnats respectifs. On a un leader, Avemus, leader en Espagne. Et c'est pas celui auquel on pense, c'est le FC Séville, mon cher Fred.
Alors si tu te souviens, mon cher Jalal, je crois que dans la première émission, j'avais fait de Séville l'un de mes favoris pour la Liga. Tout simplement parce que il y a eu un très très bon recrutement fait par Monchi, hein, vous savez, le super directeur sportif qui était parti en Italie à la Roma et qui est revenu, un super entraîneur qui a quelque chose à prouver, qui a une revanche à prendre sur la vie et sur ses ennemis. Julen Lopetegui, vous vous rappelez, l'année dernière, limogé de la sélection espagnole 2 jours avant le début du mondial et limogé du Real après 4 jours. Et Séville ne joue pas la Ligue des Champions. Et quoi qu'on en dise, ça change beaucoup de choses. La débauche d'énergie demandée par l'Europa League, surtout lors des premiers tours, est très légère pour un club aussi bien fourni que Séville. Et donc, j'ai l'impression que les Andalous peuvent vraiment, vraiment faire un coup cette saison, parce que, en tout cas, déranger les grosses écuries, parce que la situation, le contexte leur est favorable.
De que planeta veniste? C'est le titre d'un magazine et d'un quotidien même catalan, en parlant de Ansu, ce jeune prodige de 16 ans à peine.
Ansu Fati. Eh ouais.
Voilà, Ansu Fati qui fait tourner toutes les têtes en Liga. On commence même à limite. C'est un petit peu le crime de lèse-majesté, mais à pas regretter Lionel Messi. Pas regretter son absence.
Oui, on va attendre un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que finalement, on n'a pas du tout à regretter Neymar, parce que Ansu Fati n'aurait pas joué, enfin ne jouerait quasiment pas s'il y avait Neymar aujourd'hui. Bon, ça va déjà être compliqué pour lui, parce que il y a quand même Messi, il y a quand même Luis Suarez, il y a quand même Griezmann, il y a aussi bientôt le retour d'Ousmane Dembélé. Alors, c'est vrai qu'il est en train de tout faire exploser. Quand il a débuté il y a 3 semaines ou 4 semaines avec le Barça, il avait été le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Barça débutant en Liga. Quand la semaine d'après, il avait marqué un but, il avait été le plus jeune joueur du Barça à avoir marqué en Liga. Et là, comme il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga, tout club confondu, à avoir marqué un but et une passe décisive dans la même rencontre. C'est vrai qu'il est précoce, ce Garmin, mais moi, comme je suis vieux, mon cher Jalal, comme ça fait 26 ans que j'habite en Espagne, comme en France, on nous a vendu les nouveaux Zidane, les nouveaux Messi, vous vous souvenez de Bojan Krikic? Lui aussi, on disait que c'était le nouveau Maradona, le nouveau Messi, le nouveau... Voilà, donc on va être prudent, parce qu'il est encore tout jeune, il a 16 ans, au moment où je vous parle, eh ben, il sort de l'école, donc c'est extraordinaire, mais on va quand même pas lui brûler les ailes trop vite.
Voilà, donc on se calme hein, du côté du FC Barcelone. C'est en tout cas l'avis, bien sûr, bien intentionné, comme toujours quand il parle du Barça, de Fred Hermel. Moi, ce que je lui souhaite, donner ces chiffres, le plus jeune à jouer, le plus jeune à marquer. J'espère qu'il sera un jour aussi le plus jeune joueur à mettre un doublé. Pourquoi pas face au Real Madrid. Le Real, Fred, parlons un peu sérieusement. La révolution Zidane, c'est compliqué, mais on sent match après match, partido a partido, que ça s'améliore.
Ouais, franchement, quand on regarde la première période, c'était de toute beauté, vraiment. Contre l'Eventé, victoire 3-2. Simplement, et j'ai encore eu l'occasion d'en discuter ce matin avec Zizou. Voilà. Parce que l'autre jour en conférence de presse, et on a eu l'occasion de l'écouter ce week-end sur l'antenne de médias, on aura encore l'occasion dans les prochaines heures, j'avais un peu provoqué Zidane en disant « vous êtes maso en fait au Real ». Et il avait réagi un peu vertement en disant mais non, c'est pas qu'on est maso, mais il faut avoir joué au foot pour comprendre ça ». C'est que quand même quand on mène 3-0, quand on prend un but, automatiquement, et ça a été le cas du Real juste au retour des vestiaires samedi contre l'Eventé, automatiquement il y a quelques minutes où on est un peu groggy et où l'adversaire, lui, il prend une dose d'énergie. Et nous, notre problème, c'est que ces périodes de doute, elles durent un peu trop et qu'on a tendance à trop sortir du match. Et c'est vrai qu'un Real ultra supérieur a dû son salut à un arrêt extraordinaire, une main fabuleuse de Thibaut Courtois à la 93e minute pour éviter le 3-3. Donc ça reste une équipe fragile, même si elle peut être brillante. Et ce matin, j'ai discuté un peu avec Zizou et il me disait, je dis, ah ouais, comment tu m'as cassé l'autre jour en conf de presse? Il me dit, mais non, c'est pas à toi que ça se dirigeait, c'est à tous les gens qui critiquent, etc. Je dis, oui, parce que j'ai voulu te provoquer un peu la question. Il me dit, tu sais, le problème, c'est que
de toute façon, c'est une très belle histoire d'amour entre Zidane. Il peut pas parler de toi. D'ailleurs, j'annonce à tous nos auditeurs, que ce soit dans les pays du Maghreb ou en Afrique, que mon cher Fred, je peux en parler ou pas?
Ah oui, bien sûr, tu peux en parler.
Allez, vas-y, je te laisse le faire.
Non, bon, ça me gêne, mais bon,
vas-y.
J'ai l'honneur et la chance et le bonheur absolu de venir je viens de terminer un livre, mon premier livre, une biographie très spéciale de Zinedine Zidane qui va sortir en France chez Flammarion le 6 novembre, mais qui sera disponible, vous savez, sur les plateformes, etc., partout.
Disponible au Maroc aussi. Moi, je vais acheter un exemplaire et je serai très heureux que tu me le dédicaces.
Non, voilà. mais toi, tu vas pas avoir besoin de l'acheter puisque je vais te l'envoyer. Tu seras dédicacé en tant qu'ami et patron aussi. Il faut toujours faire un petit peu de toucher la bosse des patrons.
Voilà, exactement.
Donc voilà, c'est une biographie.
Tu iras loin, mon petit. Tu iras loin.
Ah, bon, avant
de poursuivre, mon cher Fred, on va écouter Zidane. Ouais. On va écouter Zidane parce que de toute façon, tu es quelqu'un de très important pour l'émission, mais quand Zidane parle,
Mais bien sûr, je vais tais.
Tu te tais.
Le problème, c'est que celui qui n'a pas joué au foot, il ne peut pas comprendre en fait comment ça se passe. Le problème, c'est que quand on est sur un terrain et qu'au bout de 3 minutes, quoi qu'il arrive, dans le deuxième mi-temps, tu prends un but, forcément l'adversaire, en fait, il revient dans le match et toi, tu prends un coup derrière la tête. Le seul truc qu'il faut gestionner plus et mieux, c'est ces moments, justement, quand en fait, il arrive où tu prends un but, c'est tout. Être plus... Ça arrive de prendre un but, on s'en fiche de prendre un but, c'est pas le problème. Le seul truc, c'est pas sortir du match. C'est tout. Mais après, je sais qu'en fait, de toute façon, les choses vont venir petit à petit. On est mieux. On l'a démontré la première mi-temps. On a très très bon en tout. En plus, c'est pas qu'offensivement. On n'a pas été que bon en marquant des buts et en jouant offensivement. On était très bon défensivement. Donc, si on est très bon défensivement 45 minutes, pourquoi on peut pas être 90 minutes? Et on le sera 90 minutes, certain.
Certains, et à commencer par cette confrontation face au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu as écrit un livre toi aussi, mon cher Hervé Penaud?
Plein, il en a écrit plein, lui, Penaud.
Et oui, j'ai écrit sur Didier Drogba, l'autobiographie de Didier Drogba, et l'autobiographie avec un ami de Mathieu Valbuena.
Alors, de toute façon, je vais commencer maintenant à avoir de nouvelles, en tout cas, exigences par rapport aux consultants de l'après-match. Celui qui n'a pas écrit de livres, de bouquins, eh ben, il n'a pas de place ici. Et j'annonce aussi à nos chers auditeurs que David Lortolari vient de publier également un livre sur les gardiennes de but. Et j'attends avec impatience d'en parler avec lui, ça sera tout à l'heure. Mon cher Hervé, rapidement, l'actu chez toi, ça a été, comme cet été, Neymar. Neymar côté pelouse et Neymar côté zone mixte. Allez, dis-nous tout rapidement parce qu'il est question aussi de Ligue des Champions.
Exceptionnel Neymar. Ce qu'on a vécu quand même samedi, et j'étais au Parc des Princes pour ce match, c'est un truc qu'on voit rarement. Alors, un accueil ébouriffant, avec un cop l'insultant, insultant son père, le sifflant dès qu'il touchait une balle. Et puis Neymar, petit à petit, reprenant le dessus par quelques gestes, on sentait qu'il y avait quelques frémissements parfois, mais toujours avec le cop contre lui, via toutes les déclarations qu'il avait, enfin, via sa volonté absolue de partir durant l'été. Et puis, à la fin, un geste à la Neymar. C'est-à-dire qu'il y a peu de joueurs au monde capables de mettre ce type de geste, et il vous fait un retourné, qu'il appelle lui un demi-retourné acrobatique, qui tape le poteau, qui rentre, 1-0, match ultra fermé, et d'un seul coup, juste devant le COP, une forme de rédemption avec le stade, puisque tout le stade s'est levé, certains ont encore sifflé, évidemment, parce que ça ne va pas s'oublier du jour au lendemain. Ce qui s'est passé, ce n'est pas parce qu'il a marqué que les gens vont lui laisser absolument tout faire et lui donner un blanc-seing. Mais il n'empêche qu'il y a eu une explosion incroyable dans le stade, et comme si c'était écrit, si vous voulez, on a la sensation que Neymar sauvant son Paris Saint-Germain alors qu'il a voulu ressortir tout l'été, c'était un truc absolument incroyable. Et plus que tout, j'étais en zone mixte après, et il est passé très très vite, en short, il est encore en short, il est arrivé, et alors il a balancé tout. Il a balancé tout, mais de manière, vous savez, presque enfantine, sans filtre. C'est assez étonnant d'ailleurs, cette manière de parler, en disant par exemple que bon, bah, maintenant il jouera tous ses matchs à l'extérieur, alors vous vous rendez compte ce que ça veut dire sur l'ensemble de la saison, et même son rapport aux supporters aujourd'hui, en expliquant tout de go, de toute façon, vous savez, j'ai voulu absolument partir du Paris Saint-Germain. Je voulais partir. Ça ne s'est pas fait parce que, pour des raisons que j'expliquerai un jour. Mais toujours est-il que moi, ça a toujours été ma volonté de partir. Et il le dit tout à fait normalement. Et en ajoutant, mais moi, les supporters, je les adore. C'était rien contre le PSG en tant que tel, mais pour des raisons plus personnelles. Ce qui me fait penser toujours, parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une forme de superstition dans cette volonté de partir, parce qu'il a l'impression qu'il lui arrive que des malheurs depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, entre ses blessures, l'histoire de la femme qu'il accusait de viol et toutes ces choses-là. Et puis, il s'en est allé comme si de rien n'était, après avoir balancé tout ça. Et ça paraissait un peu surréaliste, c'est-à-dire de voir cette scène de Neymar siffler, puis héros, puis arrivant en zone mixte, expliquant tout tranquillement que de toute façon, il voulait absolument partir du Paris Saint-Germain. Bon, ben, malheureusement, on l'avait bloqué, en quelque sorte. Et ben vraiment, ça a été une journée très particulière qui a marqué la Ligue 1, qui a vampirisé évidemment cette journée de Ligue 1, mais un moment très, très spécial. Et mais surtout, c'est qu'au moins, on aura la chance en France, et ça, c'est très important, de conserver Neymar dans notre championnat et d'avoir des gestes d'une telle classe. Et c'est peut-être lui qui amènera enfin le Paris Saint-Germain un peu plus loin en Ligue des Champions.
Voilà, le conserver au moins une saison, parce que ça paraissait clair en tout cas dans son discours. Oui, il dit limite, mais il le dit, je pense même qu'il a été en tout cas obligé, qu'il n'avait pas le choix. Il voulait partir, mais on l'a retenu à l'encontre en tout cas de sa volonté, et que maintenant il est joueur du PSG et il va agir en conséquence, Neymar. Et ben, Neymar, on ne le verra pas de toute façon lors de la confrontation face à cette équipe du Real Madrid. Il est suspendu pour trois matchs, je pense,
oui,
Neymar. Il ne sera pas là pour cette confrontation. Mais c'est une très, très belle affiche que nous offre, bien sûr, cette première journée de la phase de groupe, avec ce choc prévu donc ce mercredi entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. La parole à celui qui reçoit. Le PSG.
Enfin, heureusement, celui qui reçoit a tous les droits. Et ça va être un moment fort aussi pour ce Paris Saint-Germain. Parce que même s'ils sont leaders du championnat, c'est vraiment un PSG très poussif. Là, ils sont sauvés. Hein, parce que le fait qu'il y ait eu cette histoire Neymar, sauvé par Neymar, il n'empêche que c'était au bout d'un match catastrophique pour le Paris Saint-Germain, où il s'était à peu près rien passé. Sauf un Keylor Navas qui a montré déjà qu'il s'était imposé comme le numéro 1 ce Paris Saint-Germain. Là, pour le coup, on a vu vraiment quel gardien il pouvait être sur ce match-là. Eh bien, aujourd'hui, Paris Saint-Germain arrivant avec peu de certitude, avec Cavani qui devrait revenir, ça sera certainement un peu trop juste pour Mbappé, même s'il avait tout fait à un moment pour le faire jouer, mais visiblement ce sera très, très compliqué quand même. Donc, mais Cavani pourra être là. Icardi aura peut-être plus de chances aussi d'être là, plus qu'un Choupo-Moting qui était titulaire contre Strasbourg. Mais vraiment, on attend, c'est le test de début de saison pour ce Paris Saint-Germain, même si ça reste qu'un premier tour. Mais vu la manière dont ça se passe en ce moment, vu les difficultés qu'a Tuchel avec son équipe, s'il venait à avoir un échec contre ce Real Madrid-là, là, je pense que ça pourrait quand même remuer un petit peu en interne, même si, au final, ces deux équipes seront là en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas rater cette marche-là, parce que ça ferait que valider la sensation que ce Paris Saint-Germain, en ce moment, ça ne va pas terrible du tout. Et que finalement, le seul sauveur pourrait être Neymar, et qui sera suspendu pour les trois prochains matchs de Ligue des Champions. Donc franchement, c'est très très attendu ce match, hein, par les supporters et par les gens autour du Paris Saint-Germain, parce que c'est celui qui doit être un peu le déclic qui permettra à Paris d'enfin pouvoir lancer sa saison. Et ils vont dans la foulée à Lyon pour essayer de faire aussi un coup là-bas.
Merci beaucoup Hervé. Bah, je te laisse partir maintenant que tu nous as parlé du PSG et de Neymar. De toute façon... Le foot français aujourd'hui se résume à cela. Pas que, il y a eu Monaco-Marseille, c'était un super match, mais on parlera dans d'autres occasions. Alors, le PSG et le Real Madrid, moi je trouve que allez, les deux clubs connaissent pratiquement, bon il n'y a pas eu l'épisode Neymar côté Real, quoique, mais connaissent un petit peu les mêmes difficultés, un départ moyen jusqu'à maintenant.
Oui, c'est vrai qu'on peut vraiment les comparer. C'est vrai que, mais c'est quand même une super affiche parce que avec ces deux clubs, ça fait quand même 13 Ligue des Champions. Tu vois, quand on ajoute les 13 du Real Madrid et les 0 coupes remportées par le PSG, ça fait 13 Ligue des Champions. Donc c'est vrai que c'est un très beau duel. C'est rigolo, non?
Ouais, tout à fait. On est mort de rire.
Voilà. Mort de rire, bah oui, ça fait du mal à revenir. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, le résultat de cette rencontre est pas décisif parce que franchement. Tout le monde sait que s'il n'y a pas de catastrophe, le PSG et le Real seront en huitième de finale la saison prochaine. L'un comme premier, l'autre comme deuxième, et inversement. Voilà, c'est pas Bruges ou Galatasaray qui n'est plus ce qu'il a été, qui va vraiment empêcher la qualif de ces deux mastodontes du football européen. Mais c'est vrai qu'une défaite pour l'un ou pour l'autre club ne ferait qu'ajouter un petit peu de doute à cette période, pas de crise, mais de manque de certitude. Vous voyez, c'est pour l'ambiance que ce serait pas bon pour l'image, plus que sur le résultat en lui-même.
Voilà donc le Real Madrid qui espère bien entendu récupérer son bien, hein, ce trophée de Ligue des Champions après le fameux triplé historique avec aux manettes l'homme de ce triplé, Zinedine Zidane. Le Barça, aussi un gros match, mon cher Fred, face au Borussia Dortmund. Et on sait très bien que ce n'est pas toujours facile de se déplacer là-bas.
Non, et curieusement, il faut remonter à 20 ans pour voir Borussia contre le Barça. On a le sentiment que c'était un match assez fréquent. Ben non, pas du tout. Et on sait que le déplacement est toujours compliqué. Moi, je me souviens que le jour du tirage au sort, j'étais en communication par WhatsApp avec Antoine Griezmann et qui voulait absolument jouer à Dortmund. Il m'avait dit à cause de l'ambiance et à cause du jeu pratiqué. Donc voilà, c'est vrai que c'est fun. Il vaut mieux jouer à Dortmund qu'à, je vais pas dire un autre nom, mais voilà, il y a quand même des stades et des ambiances et des adversaires moins intéressants pour les grands clubs. Donc voilà, le Barça est content de jouer là-bas. Puis surtout, la grande nouvelle, c'est que Messi est dans la liste. Alors ça serait étonnant qu'il soit titulaire puisque il n'a pas joué en match officiel cette saison. Hein. Il est blessé depuis plus d'un mois, mais Messi dans la liste des convoqués, ben c'est déjà une petite garantie. On sait très bien que il peut, en cas de problème, il peut être là 10 minutes sur la pelouse et changer le destin du match en 10 minutes. Hein. Donc c'est une nouvelle rassurante. Et bien entendu, Ansu Fati sera dans la liste lui aussi parce que c'est la nouvelle petite perle de cette équipe. Moi, je compte surtout sur Antoine Griezmann parce que c'est quelqu'un qui pour l'instant a eu un match brillant avec le Barça, c'était contre le Betis, qui a eu d'autres matchs un peu en demi-teinte. Mais je dirais que ce sont des prestations qui n'étaient pas mauvaises, mais qui étaient surtout destinées aux gens qui connaissent le foot. C'est-à-dire que il n'a pas forcément été brillant, mais il a été tellement utile dans la construction du jeu, dans les espaces qu'il a pu ouvrir pour les autres, que son entraîneur est très content de lui, alors que le public attend encore de voir un peu mieux pour pouvoir juger Grisou.
Alors, il y a aussi cette très très belle affiche, mon cher Fred, exceptionnel, le remake du quart de finale magique la saison passée, Atlético Madrid qui reçoit la Juve.
Bien entendu, je serai au Wanda Metropolitano mercredi soir. C'est une rencontre extraordinaire. L'an dernier, c'était le plus beau match de l'Atlético de la saison. Ça s'était terminé par 2-0, mais ça aurait pu faire 4-0. On sait qu'au retour, notamment avec ce diable de Cristiano, la Juve s'était qualifiée en gagnant 3-0, et que l'Atlético avait sûrement réalisé son pire match de la saison, donc le meilleur à l'aller et le pire au retour. Donc, mais là aussi, on se dit qu'un Atlético sérieux et une Juve sérieuse doivent se qualifier, mais vous savez, on est dans une période importante pour Cristiano Ronaldo. Le Ballon d'Or, ça va bientôt commencer. La liste des 30 du Ballon d'Or France Football va être bientôt publiée. On sait que Cristiano, bien entendu, est en course et qu'il sait se montrer au moment où les jurés commencent à réfléchir. Donc, je suis persuadé qu'il sera ultra motivé, déjà parce qu'il revient à Madrid, déjà parce qu'il va le jouer contre l'équipe à laquelle il a inscrit le plus de buts sous le maillot du Real. Sa victime favorite, c'est l'Atlético. Et donc, voilà, il y a tellement de motivation pour Cristiano Ronaldo qu'il faut s'attendre à un match au sommet. Et puis, en face, un Atlético qui commence à se découvrir une autre personnalité, sans Lucas Hernandez, sans Griezmann, sans Godin, sans Juan Fran, sans Philippe Luis. Voilà, il y a une reconstruction qui est en train d'être faite. Il y a eu une défaite ce week-end, c'est vrai, à la Real Sociedad, où l'Atlético a été totalement dépassé. Mais j'avais quand même l'impression qu'ils avaient un petit peu dans la tête ce match contre la Juve, qui, même en match de poule, ne peut pas être anodin pour n'importe quel joueur.
Mon cher Fred, accueille avec moi un autre écrivain de cette émission, M. David Lortolari. Salut David.
Salut Jalal, salut à tous.
Alors, bien sûr, Zidane, le prochain livre de Fred Hermel. Hervé Penaud, lui, il a écrit la biographie de Didier Drogba, et je parlais de toi aussi, mon cher David, d'un bouquin qui m'intéresse énormément. J'attends de le voir, j'attends de l'avoir aussi, signé, aussi dédicacé, sur les gardiens de but, c'est ça?
Oui, parce qu'il faut bien contrer ces messieurs, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, c'est le panache de l'offensive, mais il faut essayer de comprendre aussi, c'est ce que j'ai voulu faire avec cet ouvrage sur les gardiens de but, comment les gardiens, mentalement, physiquement, techniquement, dans l'histoire, ont été capables de donner le change un peu aux attaquants. Effectivement, un ouvrage thématique qui s'est avéré intéressant de travailler parce qu'on est encore en train de découvrir aujourd'hui ce que peut receler comme secret le poste de gardien de but.
Voilà, donc je l'attends avec impatience, hein, parce que j'ai été aussi gardien de but de toute petite catégorie, mais ça m'intéresse. Ce poste est si particulier, si spécial. Alors tu as une minute, je sais que tu peux le faire, pour répondre à mon cher Fred Hermel par rapport à ce choc FC Barcelone, le Barça qui se déplace à Dortmund face au Borussia.
Oui, il y a de beaux matchs cette semaine pour les quatre clubs allemands en Ligue des Champions, mais c'est vrai que celui-là promet, et bien difficile de faire un pronostic côté allemand parce que Dortmund avait été défaillant lors de la précédente journée de championnat, la troisième, une défaite 3-1 piteuse contre le promu Union Berlin. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Et là, après la trêve internationale, le Borussia a frappé fort. C'est lui qui est le grand vainqueur de cette journée de championnat, en s'imposant 4-0 contre le Bayer Leverkusen, qui est un autre prétendant aux 2-3 premières places. 4-0 pour le Borussia, avec des ténors, des cadres qui ont enfin retrouvé leur statut. Mats Hummels a été très impressionnant en défense, dans les duels notamment. Devant lui, très intéressant aussi, le Danois Delaney, qui a été en numéro 6, un formidable nettoyeur de jeu et nettoyeur de ballon. Et puis devant, un autre cadre essentiel pour que Dortmund aille bien, évidemment, c'est le capitaine Marco Reus, qui avait des difficultés ces derniers temps, notamment dans la transition entre son club et son équipe nationale, et qui là a vraiment répondu présent, a été le patron offensif de l'équipe.
Oui.
J'en ai cité deux ou trois. C'est vraiment essentiel pour Dortmund s'il veut exister contre Barcelone.
Bienvenue les amis dans cette seconde partie de l'après-match. On avait en première demi-heure, bien sûr, Hervé Penaud avec Fred Hermel. On avait également, et on l'a gardé, notre consultant pour le football allemand, David Lortolari. Et on accueille l'italien de service. Ciao Simone, Simone Rovera.
Ciao, buonasera, bonsoir. L'Italie va prendre la Ligue des Champions. Le but dès maintenant. Ça commence bon. La Ligue des Champions, il faut être sûr, certaine et claire. Bon. C'est l'année de l'Italie.
Tu n'étais pas là en première partie d'émission. Il y a un match dans le match et un match dans l'après-match, mon cher ami, entre les différents consultants. Eh bien, on a les trois premiers qui t'ont précédé dans cette émission, mon cher ami, dans la première demi-heure. Ils ont tous écrit ou fini d'écrire un livre. Est-ce que tu as fait, tu vas faire, tu penses faire la même chose et pour quand ? Pour savoir si on va te prolonger avec nous. Parce que moi, je ne prends que des journalistes écrivains, monsieur.
Des écrivains ? Alors, je vais bientôt trouver les sujets qu'il faut. Mais pourquoi pas un livre pour enfants, un compte sur le football ? Ce serait beau, hein ?
Ça serait super. Bah, je le prends aussi, tu sais. Hein, je suis directement concerné par la question. Toi, tu es plus, je sais aussi, plus documentaire, hein, plus images. Je vais poursuivre d'abord, si tu le permets, avec David Lortolari. On a évoqué ce match de l'équipe de Borussia Dortmund contre le FC Barcelone. Alors, comment est perçu le Barça du côté de Dortmund ? Et Fred nous le disait tout à l'heure, ça remonte à 19 ans, je pense, la dernière confrontation entre les deux équipes. C'est vraiment deux clubs avec une ADN toute particulière, avec une ambiance toute particulière, surtout quand on joue sur la pelouse du Borussia Dortmund.
Oui, absolument. Alors, c'est assez logique, en fait, les différents échos qu'on perçoit. Celui de l'entraîneur Lucien Favre est toujours le même, c'est-à-dire il y a une force intérieure, mais son expression vis-à-vis des médias, vis-à-vis du public est toujours très prudente. Ce sont des fondamentaux qu'il répète. Et son discours ne nous apporte pas grand-chose vis-à-vis du Barça. Les joueurs du Borussia Dortmund, eux, font souffler vraiment un vent de jeunesse sur le terrain. Mais c'est pareil sur le plan médiatique, sur le plan de l'expression. Par exemple, Jadon Sancho, pour citer l'un des jeunes de cette équipe, l'un des plus en vue, c'est pareil. Il ne la ramène pas trop, il ne fait pas le malin. Et Dortmund, à son image, est plutôt pas en sous-marin, parce qu'on connaît bien le potentiel et la qualité de cette équipe. Mais on ne veut pas défier le Barça réellement en face à face. Et pour ce qui est du public, en revanche, les supporters du Borussia Dortmund, eux, se sont enflammés en début de saison quand ils ont vu le recrutement. Et même s'il y a eu un ou deux revers depuis, un en particulier, on l'évoquait tout à l'heure, contre l'Union Berlin en championnat, c'était vraiment une mauvaise prestation. Ils ont toujours ce fol espoir, ce vent d'espoir, ce feu dans le cœur, dans les tripes. Et eux croient évidemment à une qualification dans ce groupe difficile. Et donc, pouvoir faire jeu égal avec le FC Barcelone. Ce qui est sûr... On parlait tout à l'heure d'une difficulté de faire un pronostic parce que c'est une équipe assez imprévisible. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est du potentiel offensif, là, il y aura beaucoup, beaucoup de spectacles. Et c'est peut-être le match qu'il faudra suivre en ce milieu de semaine.
Merci beaucoup, David Lortolari. On n'a pas eu le temps d'évoquer les autres équipes allemandes engagées dans la compétition phare, notamment le Bayern de Munich qui accueille l'Étoile Rouge. Mais c'est vrai que cette affiche Dortmund-Barcelone sera l'une des meilleures, en tout cas, affiches et confrontations attendues lors de cette première journée de la phase de poule. Merci beaucoup, David. On te retrouve, bien entendu, vendredi pour débriefer tout ce cela. L'Ajax, donc Amsterdam aussi, David qui joue aussi, et l'équipe de l'Ajax qui a été l'une des révélations de cette saison, la saison passée en tout cas en Ligue des Champions. On suivra de très près aussi l'Ajax et surtout Ziyech, fulgurance éphémère ou changement de dimension, acteur de premier plan de l'épopée de l'Ajax en Ligue des Champions, sans pour autant quitter le club à l'intersaison. Ziyech devra confirmer, ça commence à partir de demain à Amsterdam face au club de Lille. Mon cher Simone Rovera, il y a aussi une très très belle affiche pour commencer cette phase de groupe. Un remake du magnifique match la saison passée en quart de finale entre l'Atlético Madrid et la Juventus. C'est le grand retour de Cristiano Ronaldo à Madrid face à sa victime préférée, l'Atlético.
Bah, c'est un peu le match qui fait rêver en Italie. Bah, il y a aussi Naples-Liverpool, on va parler plus tard, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, de rendez-vous à faire sur ce match. Il y a la nouveauté de Maurizio Sarri avec la Juve, il y a les jeux de Sarri face au pragmatisme de Diego Pablo Simeone, il y a les nouveaux phénomènes du football européen ou peut-être mondial, mais sûrement portugais, João Félix, face à son maître, au patron, au boss, au roi, au star, Cristiano Ronaldo. Et après, il y a plein de points d'interrogation sur la Juve. S'il y a un Juve du meilleur visage, celui face à Naples, le pire visage, celui face à la Fiorentina. Et encore, pour tous les supporters français ou francophones, est-ce que finalement on va voir Adrien Rabiot? Ou encore, c'est Blaise Matuidi qui sera le patron des milieux de terrain. Donc, c'est vrai qu'il y a cette magnifique défi entre une Juve en transformation et une Atlético Madrid en reconstruction, ou les matchs de la saison dernière, on ne sait pas si ces matchs seront les remakes du match aller ou match retour, qui étaient deux matchs totalement différents. Donc, oui, on va voir un super match, et l'espoir du côté tournois, c'est de trouver ou de retrouver le Matthijs de Ligt de la Ligue des Champions. C'est lui qui a fait tomber amoureuse toute l'Europe avec son Ajax, et pas celui de son championnat, parce qu'on dirait pas son cousin, mais peut-être les petits enfants de 2 ans qui n'est pas capable de faire ce qu'on lui demande de faire.
Voilà, donc la Juventus face à l'Atlético Madrid, autre affiche. Finalement, il en a plein lors de cette toute première journée.
Ça commence bien cette Ligue des Champions, hein, ça commence fort.
Ça commence très très fort même. Naples contre le tenant du titre, Liverpool.
Et souvenez-vous de ce que ça a été Napoli-Liverpool la saison dernière. Un match aller magnifique du Napoli, totalement maîtrisé. Liverpool, je pense qu'ils avaient terminé avec 0 tir cadré, futur champion. Et un match retour où la qualification s'échoue à les 95e minute, presque sur un arrêt monstrueux d'Alisson sur Milik, et qui aurait pu tout changer de l'histoire, pas seulement de Napoli, mais de toute la Ligue des Champions. Un équilibre incroyable, et une Napoli qui arrive avec beaucoup d'intensité, un match très réussi face à la Sampdoria, et surtout avec les nouveaux, Lozano, Messi Elmas, les jeunes Di Lorenzo sur le côté droit, qui font du bien. Donc, Ancelotti qui est en train de révolutionner un peu ce Napoli, de changer quelques petits joueurs au bon moment, au milieu de terrain en attaque, pour renforcer une équipe qui veut jouer les titres en Italie, mais peut aussi se prendre en revanche face à l'équipe qu'il a éliminée de la dernière Ligue des Champions.
Eh ben, on va poser la même question à celui qui suit pour nous. Le football anglais, le champion toute catégorie, en tout cas l'année dernière, Aurélien Devernoise. Salut Aurélien.
Salut Jalal, salut Simonet, salut à tous.
Alors on parlait, bien sûr, ça porte chance quand même à Liverpool de croiser en phase de groupe l'équipe de Naples, puisque bah, l'année dernière, ils avaient fini sur la plus haute marche du podium.
Oui, mais alors ça avait été quand même très compliqué, hein, parce qu'il y avait eu une victoire, une défaite contre Naples en poule. Ça avait failli coûter d'ailleurs la qualification pour les huitièmes à Liverpool. Et très honnêtement, du côté de l'Angleterre, on se dit qu'il y aurait pu avoir une entrée en matière plus simple pour le champion titre que de se déplacer à Naples pour reprendre la Ligue des Champions. Parce qu'en effet, Naples est une équipe qui a bien progressé, ce que vient de dire Simonet. Moi, j'aime beaucoup notamment Lozano, que je trouve très très intéressant comme joueur offensif. Et de son côté, Liverpool, même si on ne peut pas vraiment faire mieux qu'au son début de championnat en Première Ligue, hein, 5 victoires en 5 matchs, montre quand même quelques petits signes de faiblesse défensive, de petits signes de déconcentration parfois. Ils se sont fait surprendre dès le début de rencontre contre Newcastle ce week-end. Donc il va falloir resserrer un petit peu les boulons du côté de Liverpool s'ils ne veulent pas repartir de Naples avec une grosse désillusion.
Alors, ce match, c'est aussi le match dans le match entre Carlo Ancelotti et Jürgen Klopp, deux géants du bon de touche au style opposé qui se retrouvent, mon cher Simonet, pour ce choc Naples-Liverpool.
Oui, de caractère différent, même s'ils ont une chose en commun, je trouve, que c'est la capacité de créer une empathie avec ses joueurs, son groupe. Après, c'est vrai que Carlo, il aime moins la lumière en rapport à Jürgen Klopp, mais ils sont les deux capables de trouver des solutions intéressantes dans les jeux, mais surtout de savoir transformer certains joueurs, les faire améliorer. Moi, je trouve que Carlo Ancelotti à Naples a amené pour l'instant beaucoup d'expérience, mais pas encore dans les moments décisifs. Et c'est une chose dont soit il sera capable de faire un pas en plus cette saison à certains joueurs. Je pense à Insigne, mais je pense aussi à Haaland, qui après une super première partie de saison est un peu tombé dans la deuxième, ou Koulibaly, parce que là on parle de plein de destins croisés, de matchs dans les matchs, mais les matchs dans les matchs Koulibaly face à Mandy, pour moi c'est extraordinaire. Mais est-ce que Koulibaly sera capable de devenir un taulier un peu plus important, même offensivement et défensivement, comme Van Dijk? Il est déjà extraordinaire, mais est-ce qu'il peut devenir un joueur mondial? Et là, la main de Carlo Ancelotti est très importante. La saison dernière, c'était Carlo Ancelotti qui avait décidé le match aller avec une défense, on dit, à 3,5, avec Maximovic à droite qui était bloqué, mais qui permettait de bien défendre et de ne pas prendre des risques. Et pour ça, il avait rendu muette une des meilleures attaques du monde. Est-ce qu'il sera capable de trouver une nouvelle solution surprise pour mettre en difficulté Jürgen Klopp? Je pense que sera oui la réponse. Et l'homme qu'on n'attend pas, c'est les jeunes Elmas, les joueurs de la Macédoine, qui a fait très bien avec Fenerbahçe en passé et qui a débuté très très bien cet week-end face à la Sampdoria.
Voilà donc cette très très belle affiche Naples contre Liverpool. On suivra aussi Chelsea, le vainqueur de la Ligue Europa la saison passée, face à une équipe de Valence en grosse difficulté, mon cher Aurélien.
Oui, alors c'est étonnant parce que des quatre équipes anglaises qui rentrent en lice dans cette Ligue des Champions, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être pour Chelsea que je me fais le moins de soucis, alors que sur le papier, c'est quand même Valence l'équipe la plus forte qu'affronte, peut-être avec Naples évidemment, mais qu'affronte les clubs anglais. Et en effet, là on a vu le match de Valence contre Barcelone où ils sont complètement désunis, et de l'autre côté, Chelsea qui a fait quand même grosse impression ce week-end contre Wolverhampton, qui est quand même une équipe pas facile à manœuvrer, qui a une bonne défense, etc., et qui a complètement explosé face notamment aux assauts du jeune Tammy Abraham, qui a inscrit 3 buts, et même en plus un but contre son camp. Hein, il a vraiment été généreux dans cette rencontre et qui vraiment impressionne beaucoup hein, depuis ce début de championnat. 7 buts déjà en championnat en 5 rencontres. Ça va être vraiment un gros défi, je pense, pour les Valenciens de bloquer cette attaque de Chelsea. Après, il y aura des opportunités pour Valence, hein, parce que de l'autre côté de l'équipe de Chelsea, côté défense, c'est pas parfait non plus. Il y a quand même des espaces qui se créent assez régulièrement. Ça va être un match intéressant. Ça va être assez passionnant à voir, à mon avis, du côté de Stamford Bridge.
Voilà donc pour les principales affiches, en tout cas en ce qui concerne les clubs anglais et italiens. On va pas oublier non plus le finaliste de la dernière édition, l'équipe de Tottenham qui se produit lors de cette compétition et qui commence avec un déplacement en Grèce chez l'Olympiakos. Et puis, Aurélien, les Citizens de Pep Guardiola qui restent sur une contre-performance et qui se produit chez le Shakhtar Donetsk.
Oui, alors pour ce qui est de Tottenham, attention hein, au déplacement en Grèce du côté de l'Olympiakos, parce que c'est une équipe que j'ai vue en barrage et que je trouve assez intéressante, avec notamment un joueur qu'on connaît bien du côté de la France, Mathieu Valbuena, qui a rejoint l'équipe. C'est une équipe qui a un petit peu de
avec
talent.
Avec Youssef El Arabi, qu'on connaît très bien du côté d'ici
exactement,
aussi.
Exactement. Va falloir faire attention pour Tottenham sur ce déplacement en Grèce. Ça sera peut-être pas aussi facile que ça peut le paraître sur le papier. Même chose pour Manchester City du côté du Shakhtar. Il faut se rappeler que le Shakhtar avait quand même battu City en Ligue des Champions il y a 2 ans maintenant. Alors c'était le dernier match de la phase de poule et City avait fait tourner, mais quand même le Shakhtar avait réussi à battre une grosse équipe de City à l'époque. Et c'est vrai que City là se déplace avec une défaite ce week-end assez étonnante chez le promu Norwich. Étonnante, oui et non, parce que Norwich est vraiment une équipe qui est très intéressante également, qui n'avait pas réussi à prendre autant de points qu'elle l'aurait mérité depuis le début de championnat. Il y a vraiment des joueurs très intéressants dans l'équipe de Norwich, que ce soit Cantwell, que ce soit Pukki, le Finlandais, qui est vraiment très très fort. Donc City a eu des grosses difficultés lors de cette rencontre ce week-end. je pense que quand même, ils vont arriver du côté de l'Ukraine avec un peu plus d'envie peut-être, et puis un peu plus de certitude quand même, parce que c'est une équipe qui commence à être très expérimentée en Ligue des Champions. Voilà, mais il faudra faire en effet attention pour City de ne pas repartir, ne serait-ce qu'avec un match nul du côté de Donetsk.
Alors, revenons à vos championnats respectifs. On va commencer par l'Italie, Simone, avec ce week-end un petit peu compliqué pour la Juve.
Très compliqué, parce que si on ne regarde que le résultat, 0-0 à Florence, on peut dire c'est un bon point, ils n'ont pas perdu. Mais la vérité est que dans les jeux, la Juve a été pauvre comme jamais. C'était un match très compliqué, c'est vrai, parce que, comme d'habitude, retour de sélection. Il y a d'autres grands clubs d'Europe qui ont joué mal et perdu ce week-end. La Fiorentina a toujours un esprit revanchard vers la Juve. C'est un peu les matchs de la saison pour eux. Et en plus, la Fiorentina venait de deux défaites sur les deux premières journées. Mais ce qu'on a vu à niveau d'engagement, des solutions offensives, mais même des solutions défensives, des pressings, a été vraiment décevant. La pire Juve de la saison, ça peut inquiéter en rapport au début de la Ligue des Champions. Mais Maurizio Sarri a aussi expliqué que la chaleur, 32 degrés, jouer à 15h, et ça peut avoir aidé la Juve, on peut dire, à faire un très, très mauvais match. La chose qui me fait sourire, que je trouve très drôle, c'est que la Juve, même les clubs, a demandé de jouer plusieurs matchs à 15h d'ici à la trêve pour avoir plus de visibilité dans les pays d'Orient, la Chine, le Japon, pour des raisons de marketing. Tu vois, ils peuvent gagner plus d'argent, mais l'argent ne fait pas la félicité, ne donne pas le bonheur, parce que pour jouer à 15h, la Juve s'est retrouvée vraiment en conditions négatives à niveau physique. Ça fait un match, comme je disais, très décevant, où même Cristiano Ronaldo a été transparent pour 90 minutes.
C'est dire. Même Cristiano Ronaldo a été transparent. Reste avec nous, mon cher Simonet, mais pas pour parler, mais pour écouter Aurélien Devernois nous parler exactement de cette cinquième journée de la Première Ligue. Avec Arsenal, Arsenal, malgré un doublé de Pierre-Emerick et Aubameyang et un avantage de 2 buts à la pause, ça n'a pas suffi à Arsenal pour amener la victoire de chez la Lanterne Rouge Watford, 2 buts partout. Et puis, on en a déjà parlé, les Citizens qui ont chuté après les victoires de Tottenham, de Manchester United et Chelsea, et surtout le sabordage de Manchester City chez le mal classé Norwich. Les Gunners avaient une occasion en or de rejoindre l'avant du peloton. C'est, comme c'est souvent le cas avec les Gunners, raté.
Oui, c'est vraiment frustrant pour les joueurs d'Unai Emery, parce qu'ils avaient vraiment cette rencontre bien en main. Et puis, encore une fois, des erreurs défensives, des mauvais placements, des incompréhensions entre les joueurs de la ligne défensive. Et ça fait 2 buts encaissés, très évitables. Si vous voulez une statistique assez édifiante, Arsenal, c'est l'équipe dans les 5 grands championnats européens qui prend le plus de tirs. C'est-à-dire que qui laisse le plus tirer l'adversaire. Je crois qu'ils sont quasiment à 100 tirs concédés sur les 5 premières journées de championnat. C'est énorme, et ça c'est un vrai problème et de gestion de la ligne défensive, et puis aussi malgré tout du milieu de terrain, où Emery fait le choix d'aligner des joueurs un peu plus offensifs comme Ceballos, et en laissant un joueur comme Lucas Torreira sur le banc. Et c'est pas forcément toujours un bon calcul parce que cette défense d'Arsenal a tendance, c'est un peu tangué.
Voilà, donc merci beaucoup. Merci à Aurélien Devernois. On était en pleine bataille et pronostics avec Amine, bien sûr, en ce qui concerne cette Ligue des Champions. On n'est pas d'accord sur les favoris, en tout cas. Mais comme c'est moi le spécialiste de football ici, c'est pas lui, j'ai raison, et j'ai toujours raison, comme c'est souvent le cas. C'est la fin de cette édition. Merci Simonet.
Je suis d'accord, tu as toujours raison.
Merci. J'espère que Aurélien est de ton avis.
Toujours.
Ah bravo les gars.
Toujours de l'avis de Jalal et de Simonet.
Exactement. Vous allez très très loin, en tout cas dans cette émission. Je vous garde. C'est la fin de cette édition de l'après-match. Mille merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute de notre programme. Ciao ciao les amis.
C'est pas terminé. Prêté pour un rendu entre l'Uruguayen
et le Brésilien Bonassio qui est en train d'être